On va lire notre passage d'aujourd'hui qui est dans le livre des Galates, chapitre 6, versets 1 à 10. Si vous avez besoin d'une Bible, vous pouvez trouver une là, sur la table. Donc Galates 6, versets 1 à 10. Lisons ensemble. Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul et non par comparaison avec un autre. Car chacun portera sa propre responsabilité. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. C'est la parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un ici connaît Ross Edgley? Personne. Je ne pensais pas, mais bon. Ross Edgley, ce juin dernier, lui et son équipe, ils ont accompli quelque chose d'extraordinaire. Ross Edgley, c'est un athlète d'endurance de longue distance et il fait des nages de longue distance. Cela fait maintenant plus que 2 ans qu'il essaye de battre le record mondial de nage sans arrêt. Et bien, il a réussi cette 3e fois. Il a parcouru 510 km de nage sans arrêt. 510 km, c'est incroyable. Pour vous donner un peu une idée, si vous marchez de Bruxelles à Paris, c'est 280 km seulement. Donc imaginez, vous nagez jusqu'à Paris et puis vous revenez presque aussi. C'est complètement fou ce qu'il a fait. Mais ce qui est important ici, c'est qu'il n'a pas fait ça tout seul. C'est impossible pour lui de faire ça tout seul. Il avait une équipe autour de lui. Il avait des gens qui le protégeaient pendant qu'il nageait. Il y avait un moment où il y avait un ours noir qui se promenait aussi à côté de la rivière. Il y avait des gens qui l'aidaient à naviguer la rivière parce qu'il y avait des tourbillons, il y avait des eaux rapides. Il y avait des gens qui l'aidaient avec sa nutrition, des médecins qui étaient là pour vérifier sa santé. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose qu'il peut faire tout seul. Il avait besoin d'une équipe. Pour faire un tel exploit, on a besoin de gens autour de nous qui partagent la même vision que nous, qui nous encouragent et qui sont là pour nous pousser à réussir. Je partage cette histoire avec vous parce que vivre dans l'esprit, c'est un peu la même chose dans le sens où on a besoin de gens autour de nous pour faire ça. Tout au long de l'Écriture, nous voyons que suivre le Christ n'est pas quelque chose qu'on fait tout seul. Bien sûr, il y a des choses qui sont individuelles. Et ces choses sont très importantes. Mais marcher dans l'esprit en suivant le Christ, c'est quelque chose que nous faisons ensemble avec les croyants dans l'Église. Dans l'Église, on trouve des gens qui nous aident à nous rétablir lorsqu'on tombe dans le péché, des gens qui nous encouragent, des gens qui nous aiment, qui sont là pour nous. On trouve des gens aussi qui ont le même objectif, à savoir rendre gloire à Dieu. On trouve un enseignement solide qui nous montre qui est Dieu et qui nous montre comment marcher dans l'esprit. Dans l'Église aussi, nous pouvons faire toutes ces choses pour les autres. Vous voyez, on ne vient pas à l'Église seulement pour recevoir, mais on vient à l'Église aussi pour servir et aimer les autres. C'est ça notre vocation, aimer et servir les autres. L'Esprit nous aide à marcher en phase avec lui-même par l'intermédiaire des autres chrétiens. Et Paul nous encourage de faire tout cela ensemble, de 3 manières différentes dans ce chapitre 6 que nous allons voir. Il nous apprend à faire cela par la douceur, la générosité, en faisant du bien envers les autres. Relisons les versets 1 à 5 pour voir ce premier point. Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Et que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul, et non par comparaison avec un autre, car chacun portera sa propre responsabilité. Comme on a vu la semaine passée, il y avait beaucoup de divisions dans cette église en Galatie. Au chapitre 5, verset 15, Paul disait qu'il devait arrêter de se dévorer, de se mordre les uns les autres, parce qu'ils seraient consumés les uns par les autres. C'est un peu logique que cela se passe, si on réfléchit un peu. Vous voyez, le grand problème dans cette église, c'était qu'ils s'étaient éloignés du vrai évangile. Ils pensaient qu'ils étaient sauvés par leurs actions et Jésus. Vous voyez, ils n'avaient pas une bonne compréhension de la grâce de Dieu. Et si on n'a pas une bonne compréhension de la grâce de Dieu, on ne peut pas nous-mêmes montrer cette même grâce à quelqu'un d'autre. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Lorsqu'ils voyaient quelqu'un tomber dans le péché, tout devenait une compétition ou une comparaison. Ils étaient là, ils n'étaient pas là pour aider les uns les autres, ils étaient là pour se comparer les uns les autres. Lorsqu'on fait cela, lorsqu'on ne comprend pas vraiment l'évangile, ce qu'on fait quand on voit quelqu'un tomber, c'est « Ah mais, tu as vu ce qu'un tel ou un tel a fait ? Moi, je ne ferai jamais ça. » Et ça devient encore pire si quelqu'un fait quelque chose contre nous. Alors c'est « Ah non, mais tu as vu ce qu'il a osé de faire ? Moi, je n'ai rien fait contre cette personne. » C'est injuste. C'est comme ça qu'on réagit. Mais Paul appelle les Galates à réagir différemment. Il dit, si quelqu'un vient d'être surpris dans le péché, vous qui êtes spirituel, vous devez le rétablir. Et ici, très important, dans un esprit de douceur. Marcher ensemble selon l'esprit, c'est notamment s'entraider lorsqu'on tombe. Ce n'est pas facile de faire ça, pour plusieurs raisons. Nous avons généralement la tendance à réagir de deux manières différentes. La première, comme on a vu, c'est on devient fier, on commence à comparer, on commence à juger les gens. On évite à dire « Ah, t'as vu ce qu'il a fait ? T'as vu ce que lui, il a fait ?» On commence à se mordre. Au lieu de nous restaurer, on met les autres en bas. La seconde chose qu'on fait souvent, c'est absolument rien. On se dit « Ah, restaurer quelqu'un, je dois passer du temps avec lui, je dois m'investir en lui. » Je dois avoir des discussions difficiles avec cette personne. Je préfère pas le faire. Ou on se donne une autre excuse. On pense que même si on va vers quelqu'un, on lui fait un reproche de manière avec douceur, on pense que même ça c'est jugé. Et donc on le fait pas. Mais c'est pas ce qu'on voit ici. Paul nous dit d'aller envers les uns envers les autres, si on les voit dans le péché, pour les rétablir en douceur. Et cela commence en approchant cette personne avec la bonne attitude. Dans ces situations, il est essentiel de nous rappeler du véritable évangile avant de s'approcher des gens. Dieu nous a fait grâce alors que nous, on était des pécheurs, alors que nous, on détestait Dieu. Dieu a envoyé son Fils Jésus pour nous, pour mourir pour nous, sur la croix. Jésus, qui est Dieu, s'est vidé, il s'est humilié, il est venu sur terre et il a porté nos fardeaux. Il nous a traités avec amour et douceur. On doit se rappeler de l'évangile lorsqu'on va envers quelqu'un pour le rétablir. Le fait de nous rappeler de l'évangile, c'est ça qui va produire les fruits de l'esprit en nous. C'est ça qui va produire cette douceur, cet amour pour les autres. Et ce fruit se manifeste lorsqu'on interagit avec les autres. Et donc, au lieu de pointer du doigt à quelqu'un, je dirais, tu dois changer ta vie, tu dois arrêter de vivre comme ça, lève-toi, change ta manière, et on le laisse comme ça. Non, on va envers l'autre personne. On l'aide à soulever son fardeau. On est à côté de lui. On marche avec lui. C'est ça, rétablir quelqu'un. C'est lui dire des vérités qui sont difficiles, mais en étant à côté de lui, en l'aimant, avec douceur. C'est comme ça qu'on accomplit la loi de Christ, dont Paul nous dit ici, qui est aimer et servir les uns les autres. J'aimerais ajouter une chose ici. Est-ce que vous avez des personnes dans votre vie qui font ça pour vous? Est-ce que vous avez des gens qui peuvent voir votre vie et ils peuvent voir quand vous péchez et peuvent venir envers vous pour vous rétablir? C'est très important d'avoir ces personnes dans notre vie. Et c'est aussi important d'être cette personne pour les autres. Donc, la première façon dont on vit dans l'esprit ensemble, c'est on se rétablit dans la douceur. La deuxième, c'est en étant généreux. Versets 6 à 8. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. La deuxième façon dont Paul appelle les Galates à vivre dans l'esprit ensemble, c'est la générosité. Plus précisément, dans ce passage, être généreux avec ceux qui partagent la bonne parole avec eux. Dans l'Église, à cette époque-là, Paul, les apôtres, les enseignants, ils pouvaient faire ce qu'ils pouvaient diriger l'Église, ils pouvaient se soutenir que par la générosité des gens de l'Église. Et c'est un peu la même chose dans des églises aujourd'hui. Cette Église-ci, on peut faire tout ce qu'on fait juste à travers la générosité des gens. On reçoit zéro argent du gouvernement. Tout ce qu'on fait ici, le ministère des étudiants, des enfants dont on a parlé, le culte de dimanche qu'on fait, toutes ces choses sont grâce à la générosité des gens. C'est très important. Je voudrais revenir sur l'illustration que j'ai donnée au début à propos de Ross Edgley et de son équipe. Pour élever un tel défi, il faut des gens qui s'investissent dans cette mission. Rien de tout cela peut se faire sans que les personnes s'investissent. Ils investissent leur temps, leur argent, leurs ressources pour qu'ils puissent nager ces 510 km. Sans eux, il n'y a pas de défi. Il faut que les gens s'unissent. Ils croient dans la mission et ils donnent leurs ressources pour cette mission. Ross, c'est juste un nageur professionnel. Et il a besoin de soutien pour accomplir cet objectif, qui est un grand objectif. Mais écoutez-moi bien, ce que nous essayons ici de faire est bien plus grand, est bien plus important que de nager 510 km. Ce qu'on essaie ici de faire dans cette église, c'est atteindre Bruxelles avec le Christ. Les enjeux de cette mission sont bien plus importants. Il ne s'agit pas d'obtenir un record mondial ou non. Il s'agit de la vie éternelle ou de la mort. Ce n'est pas quelque chose que Jordan, Paul, moi, on peut faire tout seul. On a besoin de gens qui sont investis, qui sont généreux avec leurs ressources pour aider dans cette mission. Regardez ce que Paul dit. Il dit « Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. » Ce passage nous enseigne qu'investir dans ceux qui nous enseignent la bonne doctrine, c'est semer dans l'esprit, et le fruit de cet investissement, c'est la vie éternelle. Maintenant, vous pouvez dire pourquoi la vie éternelle? Parce que vous investissez dans la mission, quand vous investissez dans ceux qui vous enseignent. Et la vie éternelle, parce qu'on peut atteindre plus de gens à Bruxelles, avec le message de l'Évangile qui apporte cette vie éternelle. Et donc, Église, semez dans ce qui est éternel et pas dans les choses qui périront. Finalement, nous sommes unis dans l'esprit en faisant du bien les uns aux autres. Versets 9 et 10. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. Faire le bien, ce n'est pas toujours facile. Et ce passage le montre clairement. Paul mentionne le fait de ne pas se lasser, de ne pas abandonner dans cela. Il y aura des moments où vous n'aurez pas envie de faire du bien. Peut-être que vous êtes en difficulté, donc vous avez du mal à faire du bien envers les autres. Ou peut-être que vous faites du bien envers quelqu'un qui n'est jamais reconnaissant. Ou qui peut-être ne change pas tout de suite. Mais Paul ici nous dit de ne pas se lasser, de ne pas abandonner, de continuer à faire du bien. Même quand on dit, à quoi bon, on ne voit pas de résultat. Ross Edgley ne s'est pas réveillé un jour en se disant, je vais nager 510 km. Et puis, il a mangé un petit truc, il a mis son maillot, il est allé à la rivière, hop là, 510 km le jour même. Non, il y avait des mois, des années d'entraînement qui sont entrés dans ce défi. Il y avait de nombreux moments où il s'entraînait et il ne voyait pas peut-être les changements dans son corps. Il se disait peut-être, mais à quoi bon de travailler dur, dur, dur? À quoi bon? Je ne vois pas de résultat. Mais la clé qui lui a permis d'atteindre son objectif, c'est qu'il n'a pas abandonné. Même s'il ne voyait pas toujours les changements, les résultats. Quand il était fatigué, il ne s'est pas arrêté. À la fin, il aurait pu récolter les fruits de ses efforts. Nous, on peut être plus sûr que Ross, parce que nous, on a l'assurance dans ce passage de la parole de Dieu qu'on va récolter un résultat. Lui, il a pu peut-être mettre encore des années et des années d'entraînement et peut-être qu'il n'aurait jamais réussi ce but. Mais nous, on peut avoir de l'assurance. Car ce passage nous dit que si on n'abandonne pas, nous moissonnerons au moment convenable. Église, je veux vous encourager à continuer à faire du bien. À continuer à être généreux, à continuer à aimer les uns les autres, être doux les uns avec les autres. Quand vous voyez quelqu'un qui tombe dans le péché, faites ce qui est bon, allez envers lui, ayez cette discussion difficile avec douceur et aidez-le à revenir. Continuez à servir et aimer les autres. N'abandonnez pas. On fait du bien aux autres parce que Jésus a fait cela pour nous. Il a renoncé à ses richesses. Il est devenu pauvre ici sur terre. Il a été battu, il a été moqué, mais il n'a pas abandonné. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a récolté sa récompense. Nous, on est sa récompense. Il nous a rachetés et il a accompli sa mission qui était de nous rétablir notre relation avec le Père. Et il nous a permis d'avoir la vie éternelle avec lui. Et donc, frères et sœurs, en tant que famille dans cette église, marchons dans les pas de Jésus. Soyons un corps où on restaure les uns les autres, avec douceur. Soyons un corps d'église qui fait du bien les uns aux autres. Un corps qui est généreux, qui donne pour la mission de Christ, atteindre les gens avec le Christ. Marchons ensemble dans l'esprit. Ce faisant, glorifions Dieu. Prions ensemble. Père, on te remercie pour cette belle journée qu'on a. On te remercie pour cette communauté qu'on a ici. On te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous, que tu as envoyé ton Fils qui est mort pour nous. Jésus qui est venu pour porter nos fardeaux, pour nous montrer l'exemple et nous réunir avec le Père. Seigneur, aide-nous à marcher dans ces mêmes pas. Aide-nous à toujours avoir ton évangile en tête, de toujours réfléchir sur ce que toi tu as fait pour nous. Comme ça, on peut avoir cet esprit, ce fruit de l'esprit en nous et on peut faire la même chose pour les gens autour de nous. Je Je prie que tu nous aides cette semaine à te suivre et à servir et à aimer les uns les autres. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer à chanter au Seigneur, à le louer pour qui il est, ce qu'il a fait. Et nous allons aussi le louer avec nos dîmes et nos offrandes.